SBS Radio.
Les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 11 juillet. Aux États-Unis, l'ambassadeur britannique contraint à la démission après que la publication de câbles diplomatiques ait révélé tout le mal que cet homme pensait de Donald Trump. Climat tendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée où des affrontements tribaux dans l'ouest du pays ont causé la mort d'au moins 24 personnes. Et en France, le parti présidentiel En Marche a désigné son candidat pour la mairie de Paris. Ce sera le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Et on commence donc avec Kim Darroch, l'ambassadeur britannique à Washington, qui a été contraint à la démission. En cause, la révélation de câbles diplomatiques dans lesquels l'ambassadeur se montre très critique envers l'administration américaine et plus particulièrement à l'égard de Donald Trump, qu'il qualifie d'incompétent. La révélation n'a évidemment pas plu du tout au locataire de la Maison-Blanche qui avait annoncé plus tôt cette semaine que tous les contacts étaient désormais rompus avec Kim Darroch. Alors de l'autre côté de l'Atlantique, à Londres, la première ministre Theresa May a, elle, parlé devant la Chambre des communes pour en fait faire part de son regret de voir ce diplomate démissionner. On écoute le reportage de Béatrice Leveillé pour RFI.
Alors que son probable successeur, Boris Johnson, s'est refusé à s'exprimer sur la démission de l'ambassadeur britannique aux États-Unis, le soutien appuyé de Theresa May à Sir Kim Darroch a été bien perçu par les parlementaires britanniques.
The whole cabinet rightly gave its full support to Sir Kim on Tuesday.
Tous les membres du cabinet apportent leur soutien à Kim Darroch. Il a passé sa vie au service du Royaume-Uni. Nous lui devons énormément, il a toute notre gratitude. Les bons gouvernements dépendent de fonctionnaires capables de donner leur avis en totalité et avec franchise. Et je veux que tous nos fonctionnaires soient capables de le faire. Et je compte sur le Parlement pour défendre nos valeurs et nos principes, particulièrement quand ils sont bousculés.
On the importance of defending our values and principles, particularly when they are under pressure.
Une enquête de police est en cours pour tenter de découvrir qui est à l'origine de la fuite des câbles diplomatiques dans la presse britannique qui a entraîné la démission de Sir Kim Darroch.
Et on reste en Europe, on prend maintenant la direction de Vienne, en Autriche, où se trouve le siège de l'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, et c'est là que s'est tenue mercredi en urgence une réunion extraordinaire pour faire le point sur le cas de l'Iran, et plus précisément sur les dérogations à l'accord que Téhéran avait négocié avec les grandes puissances en matière de nucléaire. Mais depuis l'élection de Donald Trump, les États-Unis se sont retirés de cet accord, et les tensions entre les deux pays ne cessent de s'exacerber. On fait le point avec Isorias de RFI.
Cette réunion extraordinaire s'est tenue dans un contexte tendu alors que l'Iran a annoncé cette semaine avoir recommencé à enrichir de l'uranium au-delà de 3,67%, le degré maximal fixé par l'accord. L'Iran, durement touché par les sanctions américaines, continue de demander aux Européens des garanties solides pour atténuer les effets de ces sanctions sur son économie. Ce mercredi, les États-Unis ont accusé Téhéran de violer les termes de l'accord pour extorquer des fonds à la communauté internationale. Critique vive également à la fin de la réunion du représentant iranien vis-à-vis de Washington. L'application de la politique de la pression maximale qui est destinée à l'échec est la principale cause de la situation actuelle, a-t-il expliqué. La situation a donc peu évolué, or le temps presse car l'Iran menace de prendre de nouvelles mesures dans 60 jours si ses demandes ne sont toujours pas satisfaites. Isorias, Vienne, RFI.
Et puis c'est une condamnation internationale à laquelle vient de participer l'Australie. L'Australie qui est signataire aux côtés d'une vingtaine d'autres pays d'une lettre ouverte adressée au Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour dénoncer le traitement réservé par les autorités chinoises à la communauté Ouïghour ainsi qu'à d'autres communautés qui vivent dans la région du Xinjiang qui se trouve à l'ouest du pays. La Chine aurait emprisonné 1 million de Ouïghours dans des camps d'internement, des camps qui sont décrits par les organisations humanitaires comme des camps de concentration où les Ouïghours, qui sont de confession musulmane, mais aussi d'autres minorités, sont assimilés de force au modèle imposé par l'ethnie Han, qui est l'ethnie majoritaire en Chine. Alors cette lettre ouverte, elle a été en fait signée par les ambassadeurs aux Nations Unies de 22 pays, parmi lesquels donc l'Australie, mais aussi, on peut citer également le Canada, la France, l'Allemagne ou encore le Japon. On prend maintenant la direction de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Près de 25 personnes sont mortes dans des affrontements entre tribus rivales dans la province de Hela, qui se trouve à l'ouest du pays et dont est également originaire le Premier ministre actuel James Marape. On retrouve Yelena Tomicha de RFI pour nous expliquer un petit peu le contexte.
Parmi les victimes, on dénombre au moins 16 femmes et enfants entre 1 et 15 ans, ainsi que 2 femmes enceintes. Le choc en Papouasie-Nouvelle-Guinée est immense. Le témoignage d'un employé du service de santé fait froid dans le dos. Certaines victimes ont été littéralement découpées en morceaux, rendant difficile l'identification. Les conflits entre clans rivaux existent depuis des siècles dans ce pays pauvre du Pacifique, alimentés le plus souvent par de vieilles rivalités provoquées par des viols ou des vols, ou pour le contrôle de gisements d'or sur des terres riches en minéraux. La première tuerie s'est produite le week-end dernier dans le village de Mounima. S'en est suivi un acte de représailles à Karida, un autre village de la région des Hautes-Terres. Le bilan très lourd serait dû à l'usage d'armes automatiques qui ont remplacé les arcs et les flèches utilisées jusqu'ici par les tribus dans cette région reculée. Le Premier ministre, James Marape, a menacé de poursuivre les auteurs et de venger ces meurtres. Exaspéré par le peu de moyens à sa disposition, 60 policiers pour une province de 400 000 habitants, le gouverneur a quant à lui promis l'envoi de renforts et le déploiement d'au moins 100 policiers supplémentaires.
Et en Australie, un père dont le fils, la belle-fille et deux de ses petits-enfants se trouvent actuellement en Syrie implore le gouvernement fédéral de mettre en œuvre leur rapatriement. Le fils de cet homme, qui est âgé de 26 ans, est parti en 2014 de Melbourne pour rallier l'État islamique. Et en début d'année, il a été capturé par les forces démocratiques syriennes. Il est depuis incarcéré dans une prison kurde. Mary Spain, la ministre des Affaires étrangères, a été interrogée sur son cas par ABC, mais comme vous allez l'entendre, la ministre est restée assez évasive sur ce cas précis.
There are very many cases to hand, unfortunately, of families who chose to take their children into the most dangerous circumstances imaginable. From some, there is an expectation that Australian officials should put themselves in harm's way to extricate those children who've been left by their families.
Et en Australie toujours, les petites entreprises ne connaissent pas la crise, mais pas non plus les vacances. C'est ce qu'on apprend dans une étude qui vient de paraître et qui révèle que la moitié des patrons de PME, les petites et les moyennes entreprises, n'ont pas pris un seul jour de congé au cours des 6 derniers mois et que par ailleurs, plus d'un quart d'entre eux n'ont pris aucun jour de vacances depuis au moins 4 ans. Des statistiques jugées alarmantes par l'Association australienne des PME, leur présidente Anne Nalder rappelle d'ailleurs avec ses propres mots que trop de travail tue le travail. On l'écoute.
To run a business, you've got to be psychologically, mentally and physically fit, because if you're not, you can affect the way you deal with your business, the way you deal with your customers. So it's very, very important to have as best health that you possibly can.
Et on prend maintenant la direction de Paris, puisque cette fois, ça y est, la bataille pour l'élection municipale qui aura lieu en 2020 semble bel et bien lancée. Le parti du président Macron, En Marche, a désigné mercredi celui qui est actuellement porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, comme candidat à la mairie de Paris. Mais ce choix ne fait pas plaisir à tout le monde, y compris au sein d'En Marche, puisque dans le camp de ceux qui étaient également candidats à la candidature, par exemple comme le député mathématicien Cédric Villani, la nouvelle a été assez froidement accueillie. On retrouve le reportage de Julien Chavannes pour RFI.
Et dire qu'une photo de famille entre les trois ex-rivaux a été envisagée à un moment. Hugues Rançon s'est bien déplacé au siège du parti, mais il a rapidement filé sans un mot pour Benjamin Griveaux. Cédric Villani, lui, n'a même pas fait le déplacement. Le député mathématicien ne cache pas son amertume. Dans un message publié avant la décision du bureau exécutif d'En Marche, il reconnaît sa défaite, tacle l'appareil du parti en dénonçant un processus verrouillé. Surtout, il n'apporte pas son soutien au candidat désigné, alors qu'il s'y est engagé, par écrit, sur un air de menace. Il laisse aussi planer le doute sur son avenir. C'est donc seul que Benjamin Griveaux est arrivé devant les caméras en tendant la main à Cédric Villani.
C'est un homme de cœur, c'est un homme d'engagement. Et je sais que nous saurons trouver, dans les heures et dans les jours qui viennent, les moyens de nous rassembler et de conduire ensemble une offre alternative à la politique conduite par l'actuel maire de Paris depuis 5 ans.
Benjamin Griveaux, candidat sans surprise et dans la douleur. Lui qui voulait entrer le plus vite possible en campagne va d'abord devoir se réconcilier avec ses ex-concurrents. Il a déjà proposé à Cédric Villani et à Hugues Granson une place dans sa future équipe.
C'est l'heure de parler sport. On commence avec la victoire hier soir de l'équipe des New South Wales contre celle du Queensland dans le troisième et dernier match du State of Origin. Un match plein de rebondissements puisque l'issue n'en a été décidée qu'à 30 voire 20 secondes de la fin du temps réglementaire avec un essai transformé qui a donc permis aux Blues de sceller la victoire face aux Maroons sur le score de 26 à 20. L'un des héros de cette soirée, c'est Mitchell Pearce. On l'écoute partager ses impressions à l'issue du match sur la chaîne 9.
Look, I'm just stoked to be back here now. The boys did all the hard work the first two games and obviously feel for Nate. Nate was a big part of the series and to get caught back in here and for the game to finish like that. Yeah, we probably could have been up by a few more and it came down to the wire, but man, that feels so good.
Et puis, à la Coupe du Monde de cricket, la Nouvelle-Zélande l'a emporté face à l'Inde, une équipe qui n'a pourtant pas démérité ni ménagé ses efforts, d'après Ken Williamson, le capitaine de l'équipe néo-zélandaise, qui leur rend hommage.
A really tough match, a great semi-final over 2 days for the crowd, but like I say, very pleased to be on the right side of it.
Et de son côté, le capitaine de l'équipe indienne, Virat Kohli, a lui fait part évidemment de sa déception après un très beau parcours dans ce tournoi de son équipe, l'équipe donc de l'Inde.
Always feels disappointed when you've played such good cricket and then, you know, 45 minutes of bad cricket puts you out of the tournament. So it's difficult to accept, it's difficult to come to terms with, but look, New Zealand deserve it because they put enough pressure on us and they were far more sharper when it came to the crunch moments.
Et la finale de cette Coupe du Monde de cricket, ce sera donc dimanche en Angleterre. La Nouvelle-Zélande affrontera donc soit le pays hôte, donc l'Angleterre, soit les champions en titre, c'est-à-dire les Australiens. Et on jette maintenant un œil à la météo de ce jeudi. Il fait 19 degrés à Perth et il y a des nuages, 16 degrés et quelques averses sur Adélaïde, 14 degrés à Melbourne et à Hobart, il fait 10 degrés à Canberra, 17 degrés à Wollongong où il fait beau mais il y a beaucoup de vent aussi à Sydney où il fait 19 degrés et à Newcastle où il fait 20 degrés. Plus au nord, comme souvent, les températures sont plus clémentes puisqu'il fait 25 degrés à Brisbane, 27 à Cairns et 31 à Darwin.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.